L'épopée de 17 moines bénédictins originaires des Aldudes, racontée par Mickaël et Ramos P. Bonjour Mickaël, bonjour à tous les auditeurs. Après l'Argentine et les États-Unis, voici nos bénédictins à Jérusalem. Qui sont-ils et quelle mission les attend en Palestine ?
Oui, il s'agit donc de Benoît Garriador de la maison Chiloïnia et de ses deux cousins germains, les frères Raphaël et Théophane Ardance. Les trois sont d'ailleurs les neveux du père Odilon Ardance, l'un des fondateurs de Belloc. Alors même si on va en parler un peu plus au prochain épisode, commençons par Benoît Garriador, Chiloïneko Joanesh donc. Il est né en 1859 aux Aldudes. On le retrouve au séminaire de La Ressort, mais rentre à l'invitation de son oncle Odilon Ardance à Belloc en 1875, date de la fondation du monastère. On raconte que par trois fois, il veut abandonner, mais son oncle insiste, reste encore un peu avant de décider, lui conseille-t-il. Finalement, il dit oui. Il part faire son noviciat à la pierre qui vire. De là, on l'envoie faire un doctorat de théologie à Rome. Et par la suite, on le retrouve maître des novices à Buckfast, en Angleterre, et prieur de Kerbeneat, en Bretagne, jusqu'à sa nomination comme supérieur de la mission palestinienne à Jérusalem en 1901. Alors, on lui adjoint, entre autres, son cousin germain de la maison Menta, Raphaël Ardance. Et c'est pas par hasard. Ce dernier est maçon et architecte. Il a déjà été sellerier, c'est-à-dire économe, à Belloc. C'est la personne idéale pour lancer et suivre les constructions. Mais laissons-lui la parole à travers un article qu'il envoie en mars 1901 au journal Escuela Luna, où il raconte ses premières impressions. Diverses congrégations possèdent à Jérusalem de bien beaux couvents. Mais pour nous, dernière arrivée, nous n'avons que du terrain à bâtir. À 10 km d'ici, à Abou Gosh, d'importantes concessions du gouvernement français, comprenant des terres, des ruines et une belle église des croisés qui servait d'étable aux troupeaux du village depuis 400 à 500 ans. Et qui a résisté au fanatisme des musulmans grâce à ses murs de 3 mètres d'épaisseur. Là, il y a des fouilles à faire. L'église à restaurer et à bâtir un petit couvent qui servira de maison de campagne à un futur monastère situé au Mont des Oliviers et auquel sera annexé un séminaire syrien. En attendant, nous habitons l'aumônerie des carmélites du pater à quelques pas de l'Ascension et à côté du magnifique cloître du Pater donné à la France par la princesse de la Tour d'Auvergne et où 32 beaux panneaux encadrés dans le mur intérieur répètent en 32 langues le Notre Père, sauf en basque. Dans le même article, donc, Raphaël Ardance s'adresse à ses compatriotes en leur demandant de participer au financement d'un panneau du Gureaïta en langue basque. Voici ses arguments. Les pèlerins qui montent ici par milliers verront ainsi un échantillon de notre langue. Pardonnez à un ours des Aldudes de vous avoir fait une pareille proposition. Alors la collecte fut une réussite, puisqu'on peut voir aujourd'hui dans le cloître du pater le Gureaïta. Par contre, il est rédigé en dialecte biscaïen. Il ajoute encore « Que vous dirais-je maintenant de Jérusalem ? Les deux événements qui occupent le plus les esprits sont, je crois, l'affluence des pèlerins et la sécheresse. La sécheresse, surtout, présage pour cette année des maladies et des souffrances. La saison des pluies va finir, les citernes sont vides et l'eau se vend déjà assez cher. Depuis 2 mois, on fait des prières publiques dans les églises. Les musulmans font de grandes processions autour de la mosquée d'Omar. Le village réuni autour de l'Ascension fait entendre de véritables sarabandes non sans jeter des pierres, contre les couvents voisins. Raphaël Ardanz va donc accomplir sa mission et rentrer en France, ou plutôt à Lascano en Guipuscoa, comme on va le voir un peu plus tard. Mais auparavant, il a accueilli son jeune frère, Jean-Baptiste Théophane Ardanz, né en 1883 aux Aldudes. Celui-ci va s'occuper des séminaristes et de leur formation. Pour cela, il apprend d'abord la langue arabe, la liturgie syriaque et participe à la collecte à travers tout le Moyen-Orient des textes et des musiques de cette tradition, en compagnie, entre autres, du père Gabriel Lerchundi que l'on retrouvera plus tard à Belloc. Il est décrit comme un excellent professeur, tout dévoué à ses élèves et à la patience d'ange. Un de ses anciens élèves écrit ceci de lui. Il était de ceux dont la bonne humeur ne se démentait jamais, quelque difficile qu'ait été la tâche qu'il avait à accomplir et le problème à résoudre. Ainsi, ses anciens élèves, prêtres et évêques, aujourd'hui, lui ont gardé une reconnaissance sans bornes, et il est définitivement installé dans leur cœur. Après la tragique parenthèse de la guerre de 14, où il est affecté comme infirmier auprès des tirailleurs tunisiens, il retourne à Jérusalem, où tout est à reconstruire. Malheureusement, si le nombre des séminaristes augmente, les bénédictins sont en nombre insuffisant. Benoît Gariador a été auparavant élu visiteur et abbé général, un autre est décédé à la guerre, et malgré les appels à l'aide, la relève n'arrive pas, et le père Théophane et ses confrères s'épuisent. Cette fatigue, il ne peut pas la cacher à sa sœur, à qui il écrit en 1925. Il raconte qu'il a reçu pendant 40 jours le père mort, Elizondo, et le père Ignace. Il dit ceci, entre autres, « Dembora laburuntan, ene occupationias cachu, estut orem baten elerik egin, ikusi dute nola itoagiren. » C'est-à-dire, dans ce laps de temps, je n'ai pas eu une heure à leur consacrer. Ainsi, ils ont vu qu'on était noyés et ils ont promis de nous envoyer du renfort. Malheureusement, malgré l'immense travail réalisé, pas de renfort. Et la fondation bénédictine en Palestine devra fermer en 1953. Le séminaire est transféré à Charfé, au Liban. Le monastère d'Abou Ghosh sera repris par d'autres communautés, et aujourd'hui ce sont les bénédictins olivétains qui l'occupent. Quant au séminaire syrien, il est devenu la maison d'Abraham. Il est géré par le Secours catholique, qui accueille les pèlerins, mais organise également dans cette région troublée des rencontres interreligieuses. Non sans mal d'ailleurs, car il y a encore quelques mois, le 28 octobre 2021, l'autorité israélienne a interdit l'une de ces rencontres au motif que des éléments palestiniens radicaux s'y trouvaient. Pour clore cet épisode, voici encore un témoignage que j'ai recueilli auprès de Marthe Etchebarne, petite nièce du père Théophane et qui, mariée à un Libanais musulman, vit depuis les années 60 à Beyrouth. Voilà ce qu'elle me dit. Trois choses me reviennent à propos de Otio Théophane. D'abord, on m'a raconté qu'il passait ses vacances d'été dans les montagnes du Liban, où il aimait rencontrer les poètes et les écrivains. Il s'entretenait avec eux et était reconnu pour son érudition concernant la littérature et la poésie arabe. Ensuite, un jour, alors que je travaillais dans le domaine de l'enseignement du français pour arabophones, je rencontrai un prêtre qu'il avait eu comme professeur à Jérusalem. Quelle ne fut pas sa joie et son émotion de se retrouver avec sa petite nièce. Enfin, poursuit Marthe, « Tu sais que lorsque je fis part à ma famille de mon intention de me marier avec un musulman, il n'est pas difficile d'imaginer l'émotion, si ce n'est le scandale, que cela enclencha aux Aldudes et dans la famille. » Et c'est finalement Théophane Ardanz qui ramena le calme. « Je connais bien les Libanais, ce sont d'excellentes personnes. et Marthe sera heureuse. » Et ma cousine de conclure, « Otio Théophane avait raison, j'ai fait un mariage heureux. » On aura l'occasion de reparler de lui un peu plus tard, car après le départ déchirant de Jérusalem où il aura passé 50 ans, il passera encore une douzaine d'années à Béloc. Mais nous n'allons pas encore quitter Jérusalem et Beyrouth, puisque la prochaine fois, nous retrouverons Benoît Gariador, qui, après avoir lancé la mission palestinienne, va être appelé à des fonctions très importantes que nous allons détailler la prochaine fois.
Merci beaucoup, Michael et Ramouspé, et rendez-vous la prochaine fois.